Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Gilles Guyon, je suis le président de la société Mona, qui est une filiale de DFSA et de d'Ocapos, qui est la filiale numérique du groupe La Poste. Et c'est une filiale qui a été créée en début d'année pour développer et commercialiser une offre de carnet d'information du logement. Et on va vous faire une présentation, évidemment, sur la réglementation en tant que telle, mais également une application au cas de la copropriété, puisque c'est le sujet du salon d'aujourd'hui. Et puis, vous avez, qui m'accompagne également, Pascal Rioual, qui est directeur du développement de la société Mona. Alors, le carnet d'information du logement, eh bien, il est obligatoire. C'est quelque chose qui a été intégré dans le cadre de la loi climat et résilience, qui a été promulguée en août 2021. Et le décret d'application, en fait, du carnet d'information du logement, eh bien, il est paru le 27 décembre 2022, ainsi que l'arrêté associé, et rend le carnet d'information du logement obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Alors, il est obligatoire pour tout logement neuf en cours de construction et qui a fait l'objet d'un permis de construire depuis le 1er janvier 2023. Il est également obligatoire dans le cadre d'une rénovation, c'est-à-dire si le logement fait l'objet d'une rénovation énergétique qui a, et c'est inscrit comme ça dans le texte de loi, qui a un impact significatif sur la performance énergétique du logement. Et un autre élément qui est intégré dans la réglementation, c'est le fait que le carnet d'information du logement, il est également obligatoire dans le cadre d'une mutation, c'est-à-dire lorsqu'il y a une vente de ce logement. Alors, pourquoi le carnet d'information du logement a été mis en place par les pouvoirs publics? Eh bien, c'est un dispositif qui permet en fait de centraliser tous les documents permettant en fait de jalonner la vie du logement. Je prends assez fréquemment cette image-là. C'est un peu comme le carnet d'entretien en fait de votre véhicule. Vous avez avec le carnet d'information du logement, eh bien, un carnet d'entretien du logement et qui va être lié au logement et qui sera transmis aux futurs acquéreurs du logement. L'idée aussi, hein, évidemment, c'est de pouvoir aider les propriétaires de logements à, je dirais, améliorer de façon récurrente et dans la durée la performance énergétique du logement, puisque dans le carnet d'information du logement, on va avoir l'historique de toutes les actions qui ont été menées en termes de rénovation énergétique, mais également les installations d'équipements de contrôle de type gestionnaire d'énergie, par exemple. Alors, l'obligation, elle est, j'en ai déjà parlé, pour tous les logements neufs et les logements existants, que ce soit pour la mutation ou que ce soit pour la rénovation. Ça accompagne le logement tout au long de sa vie. Ça peut être numérique, et c'est inscrit également comme ça dans la loi, mais pas nécessairement. C'est-à-dire que si le propriétaire en fait la demande ou souhaite disposer d'un carnet d'information du logement papier, je dirais un peu à l'ancienne, c'est-à-dire une chemise cartonnée avec des intercalaires, ça marche aussi. C'est un peu plus difficile à transmettre puisqu'on a quelques difficultés parfois à retrouver ces éléments-là ou, et les récentes tempêtes nous le montrent, quand on a des inondations, eh bien, les documents sont perdus. Donc, il vaut mieux avoir une solution numérique. L'autre élément qui est important, c'est que c'est le propriétaire du logement qui est responsable de l'établissement en fait, du carnet d'information du logement. Il est alimenté en termes de documents par les professionnels du logement avec lesquels vous avez affaire, que ce soit le promoteur, le constructeur, l'artisan ou l'entreprise de rénovation. Et il est transmis, et ça c'est un élément important également, par le propriétaire vendeur au propriétaire acquéreur lors de la signature de l'acte authentique. Et c'est attesté par le notaire dans l'acte authentique. Alors quand on essaye de regarder pour le cas de la propriété, les différents cas qui se présentent à nous. On a le premier cas, je dirais le premier cas classique, qui est la construction en termes de logement neuf. Alors l'élément déclenchant, ça va être quoi? Ça va être le permis de construire ou la demande préalable à compter du 1er janvier 2023. Donc pour la construction, qu'est-ce qui se passe? Le professionnel, donc promoteur-constructeur, établit les carnets d'information du logement puisqu'il est le premier propriétaire de ces logements-là. Il déverse les documents relatifs à la construction dans les différents carnets d'information du logement. Et puis ensuite, lorsqu'il y a la vente, il les transmet bien évidemment aux propriétaires acquéreurs. Nous, ce qu'on propose côté Mona, eh bien, c'est que ce soit le professionnel promoteur qui accompagne la création et la vente des carnets d'information du logement auprès des copropriétaires. Et petite subtilité pour ce qui nous concerne, c'est qu'il nous paraît, mais on va y revenir assez largement dans la présentation, c'est qu'il nous paraît important d'associer à la copropriété un carnet d'information du logement dit partie commune pour tout ce qui ne concerne pas finalement ou de façon parcellaire le logement individuel du copropriétaire. Le deuxième cas, c'est la rénovation, je dirais, globale de la copropriété, que ce soit une isolation extérieure, la reprise des façades, etc. Donc là, c'est pareil, les éléments déclenchants pour cette rénovation, ben, ça va être le permis de construire ou la déclaration préalable, ou les devis ou le début des travaux, toujours à compter du 1er janvier 2023. Pour la rénovation de l'immeuble, eh bien, les copropriétaires doivent établir le carnet d'information du logement et le professionnel vient déverser les documents relatifs à la rénovation dans les différents carnets d'information du logement. Là encore, ce qu'on propose côté Mona, c'est que ce soit le professionnel qui accompagne la création de ces carnets d'information du logement ainsi que leur vente. Même chose. S'il y a, lorsque l'opération ne concerne que des parties communes, eh bien, on propose dans notre proposition d'offre la création d'un CIL partie commune. Troisième cas, c'est la rénovation d'un logement individuel, donc qui est à la main, je dirais, du copropriétaire. Là aussi, les éléments déclenchants sont similaires à ceux précédents, c'est-à-dire la déclaration préalable. Et pour la rénovation, eh bien, le copropriétaire établit le carnet d'information du logement et le professionnel ou entreprise de la rénovation vient déverser les différents documents. Et de la même façon, et vous l'avez compris, le mode de commercialisation en fait, de l'offre Mona est vraiment une offre de type B2B2C, c'est-à-dire qu'on s'adresse en priorité aux professionnels du logement qui eux-mêmes vont le commercialiser auprès de leurs clients particuliers. Quatrième cas, c'est bien sûr l'étape ultime, je dirais, d'un logement qui est sa vente. Donc là, les éléments déclenchants, eh bien, dans le cadre de la mutation, ça va être le fait que le notaire s'assure que l'acquéreur dispose bien d'un CIL et que donc le vendeur lui a bien transmis, dans le cadre de la signature de l'acte authentique, le fameux carnet d'information du logement. Donc dans ce cas-là, le propriétaire-vendeur établit le carnet d'information du logement. Le professionnel déverse les documents au sein du carnet d'information du logement. Et enfin, le propriétaire acquéreur atteste de la transmission de ce carnet d'information du logement lors de la signature de l'acte authentique. Je vais passer la parole à Pascal maintenant pour les questions qui se posent dans le cas des copropriétés, parce qu'il y en a un certain nombre qui se posent. Et je lui passe la parole pour présenter cette partie-là.
Alors, en fait, c'est bon. Les copropriétés, par rapport à un logement classique, genre une maison individuelle, vous voyez bien qu'il y a la question des parties communes qui interviennent et il y a tous les acteurs, conseil syndical, syndic, qui, en fait, disposent de documents que le propriétaire... ne capitalise pas automatiquement, en fait, ou ne suit pas automatiquement, notamment tout ce qui concerne les parties communes. Et donc, en fait, quand on est dans... On va prendre l'exemple d'un immeuble, mais ça peut être une somme de résidences sur une... de maisons qui ont des parties communes. Mais si on prend un immeuble, on voit bien que si jamais on ne fait rien, ce qui est une pratique assez courante, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une rénovation dans un logement, le propriétaire va établir un carnet d'information du logement. Donc il va se débrouiller tout seul et puis il va déverser des documents dedans, il va avoir son carnet d'information du logement. Le syndic ne va pas être automatiquement au courant parce que le propriétaire fait ça dans son coin, c'est normal. Et il va y avoir un professionnel qui pourrait potentiellement lui ouvrir un carnet d'information du logement. Et donc on voit bien qu'on peut avoir dans le temps, entre les opérations de rénovation des copropriétaires et les opérations de mutation, une espèce de création de carnet d'information du logement au cours du temps de chacun des appartements. Si jamais il y a une opération sur l'ensemble de l'immeuble, ce qui se fait actuellement beaucoup sur les opérations de rénovation, sur les parties communes, notamment isolation externe, toiture, combe, etc. En fait, là, les copropriétaires, ils votent bien sûr les travaux, mais quelque part, en toute logique, tout le monde devrait ouvrir un carnet d'information du logement et déverser ces documents là-dedans. Ce qui, d'un point de vue processus et puis d'un point de vue coût, est un peu disproportionné. Et celui qui pilote tout ça, c'est soit le conseil syndical, soit le syndic par délégation. Et lui, il va avoir les documents et il va piloter les travaux et il va avoir les documents in fine qui peuvent être mis dans ce qu'on appelle un pseudo carnet d'information du logement partie commune de l'immeuble. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir des travaux sur l'immeuble qui vont concerner l'efficacité énergétique, mais qui ne concerneront pas chacun des logements des copropriétaires, en fait, ce carnet d'information du logement immeuble va évoluer dans le temps comme les autres carnets d'information du logement. Donc la question qui se pose sur une copropriété, c'est est-ce qu'on laisse les copropriétaires, au fur et à mesure des opérations, établir le CIL avec un professionnel? Et dans ce cas-là, on voit bien que la copropriété, sur une dizaine d'années, va évoluer avec plein de types de CIL et une hétérogénéité particulière. Et le conseil syndical ou le syndic vont être amenés à un moment à créer aussi un CIL immeuble. Et il va y avoir des transferts de documents, de types de produits, etc. Ou est-ce que, quelque part, le conseil syndical ou par délégation le syndic ne prend pas la main et propose une solution unilatérale sur tout l'immeuble, qui communique et qui fasse qu'il y ait une homogénéité et il y a la possibilité de minimiser les coûts si jamais le premier CIL qui est créé, c'est simplement sur la copropriété externe. Et puis au fur et à mesure qu'un appartement se vend, par exemple, le copropriétaire va être obligé de créer un CIL et dans ce cas-là, il va récupérer les documents de la partie commune qui seront gérés par le conseil syndical ou par délégation le syndic et il va pouvoir le transférer au nouvel acquéreur. Et ça minimise un petit peu la solution. Mais on voit bien que sur la copropriété, on est sur une solution qui est plus compliquée dans l'application de la réglementation. Voilà. Nous, notre recommandation, elle est plutôt de dire le conseil syndical ou par délégation le syndic gère les éléments sur les parties communes et les met à disposition des copropriétaires au moment où ils sont dans une situation où ils doivent établir un carnet d'information du logement pour leur logement. Et là, je dirais, c'est une optimisation quelque part à la fois des process et à la fois des coûts. Alors, si on reprend les 4 cas qui ont été cités, qui concernent la copropriété et qui vont générer la création de carnets d'information du logement par les copropriétaires, ou du moins l'obligation réglementaire qu'auront les copropriétaires de créer un carnet d'information du logement, il y a la construction de logements neufs. Là, la question ne va pas trop se poser, puisqu'en fait, le promoteur, c'est le premier propriétaire, doit établir le CIL et le transférer dans une opération de VEFA. Il va le transférer sur toute opération qui est postérieure en dépôt de permis au 1er janvier 2023. Le promoteur va transférer les documents et chacun des copropriétaires aura un CIL. Et on démarra avec une copropriété où il y aura quelque part une homogénéité des CIL. Et potentiellement, il faut créer aussi un CIL partie commune qui est mis sous la responsabilité du conseil syndical par délégation du syndicat. Donc en fait, le professionnel du logement transmet les documents, établit les CIL pour tous les copropriétaires. Chaque copropriétaire de l'immeuble va se retrouver avec un carnet d'information du logement avec les documents inhérents à l'efficacité énergétique et les possibilités de faire évoluer son logement dans le temps. Et puis le conseil syndical, par délégation le syndic, va se retrouver avec les documents qui concernent toutes les parties communes à partir du moment qui auraient été transmis par le promoteur. Deuxième situation, et ça c'est une situation qui se passe beaucoup aujourd'hui, c'est on fait des travaux de rénovation, mais ça ne touche pas les logements. Ça touche que les parties communes, isolation extérieure, les combles, les toits, tout ce que vous voulez. Dans ce cas-là, en fait, la réglementation dit qu'il faut créer autant de carnets d'information du logement qu'il y a de copropriétaires. Mais nous, ce qu'on propose, c'est de dire, voilà, le conseil syndical ou par délégation le syndic ouvre un carnet d'information du logement pour l'immeuble. On y dépose l'ensemble des travaux qui ne concernent que les parties communes, en fait. Et au moment où les copropriétaires, dans le temps et dans les deux situations qui vont suivre, auront besoin d'établir un CIL, et ben en fait, on leur transmettra aussi les éléments des parties communes. Et de toute façon, le syndic va avoir, par délégation du conseil syndical, va avoir la responsabilité de mettre à jour le carnet d'information du logement pour les parties communes dans le temps, puisqu'en fait, il est quelque part responsable des tantièmes qui concernent les parties communes. Donc, d'une certaine façon, il est obligé de le faire. Donc, en fait, on se retrouve avec les artisans qui ont fait l'opération de rénovation de l'immeuble. Ils vont transmettre les documents. Le syndic va récupérer le CIL partie commune. Et puis après, si les copropriétaires, à un moment ou à un autre, ont besoin d'ouvrir un CIL, les documents pourront être transmis de façon assez simple. Hop. Voilà, après, vous avez toujours le copropriétaire qui, ça dépend des situations, mais par exemple, il change son eau chaude sanitaire, il change son système de chauffage si jamais il a quelque chose de particulier. Il met des fenêtres. Ça, c'est quand même une opération qui est assez courante. Il change tout simplement ses fenêtres pour isoler. Là, réglementairement, il est obligé d'établir un carnet d'information du logement qui va capitaliser toutes ces informations pour, je dirais, la suite de la vie du logement. Et donc, à partir du moment où il crée son carnet d'information du logement, le copropriétaire, eh ben, d'une certaine façon, il va y mettre bien sûr les éléments changement de fenêtre, par exemple les documents que va lui transmettre l'artisan. Et puis ensuite, ce n'est pas idiot qu'il y mette aussi une partie des documents des parties communes qui viennent du CIL immeuble, puisque ça fait partie de la capitalisation de l'ensemble. Voilà, ça c'est pour l'opération de rénovation. Et puis pour l'opération de vente, on est exactement dans la même situation. À ceci près que lorsqu'il y a une opération de vente, le copropriétaire qui vend, il fait déjà appel à un état des lieux de la copropriété vis-à-vis du syndic. Là, ce que rajoute la loi, c'est simplement qu'il va récupérer aussi l'état des lieux du carnet d'information du logement de l'immeuble. Il va le rajouter à l'état des lieux de son logement. Et donc, il transmettra ça au futur acquéreur. Il va transmettre le carnet d'information du logement de son logement qui va être transféré du propriétaire-vendeur vers le copropriétaire-acheteur. Et voilà. Et donc, tout ça, bien sûr, d'un point de vue numérique, vous pouvez comprendre que tout ça se fait assez simplement, même si, d'un point de vue conceptuel, l'application à la copropriété de la loi reste un petit peu difficile à digérer de façon assez simple. Alors après, je vais descendre sur le produit. Le produit, en fait, il répond... dans ce qui est en noir, il répond à tout ce qui est attendu par la loi. Et en plus, le produit, il fait un certain nombre de choses de plus. On met une plateforme dans les mains du professionnel qui va lui permettre de créer le carnet d'information du logement, de diffuser les documents, de communiquer avec les copropriétaires. On a un système qui est carnet d'information du logement qui est labellisé coffre-fort numérique puisque c'est la solution de DocaPost. Donc c'est le seul carnet d'information du logement qui est labellisé comme ça. Et donc on a un système RGPD by design, ça veut dire que les données, le carnet d'information du logement, il est au propriétaire du logement. Et en fait, on ne peut pas y accéder. C'est ce qui est un peu normal, mais si jamais il souhaite partager une donnée, il faut le consentement du particulier, ce qui est tout à fait logique. C'est la même chose que le coffre-fort Digipost pour ceux qui connaissent. Et bien sûr, le stockage est fait en France. Il y a un système de sécurisation, de doublement des données, etc. Enfin, ça paraît des choses évidentes, mais il faut les rappeler. C'est ça, la sécurité aussi sur les serveurs. Voilà. Le conseil syndical ou le syndic, en fait... on peut lui donner l'accès à la plateforme pour qu'il puisse avoir accès et communiquer avec les CIL des copropriétaires. Ça fait partie des options possibles. Ça dépend de son choix. Et le copropriétaire, on lui fournit en plus un coffre-fort Digipost. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un coffre-fort Digipost, mais ça permet... Le carnet d'information du logement va capitaliser les données du logement, du bâti, les matériaux, les diagnostics. Et le coffre-fort Digipost, en fait, c'est quelque chose où vous pouvez connecter votre fournisseur d'énergie, votre fournisseur de télécom, et en fait, tous les documents vont être capitalisés, archivés de façon automatique, agrégée. Donc, vous avez les usages du logement. Donc, vous avez d'une part le bâti, d'autre part les usages du logement. Voilà. Donc, en fait, vous avez dans votre téléphone l'ensemble des éléments qui concernent votre logement à l'adresse qui est donnée, quoi.
Et juste peut-être un point complémentaire, c'est que le dépôt des documents via les interfaces, que ce soit par le professionnel ou un autre acteur d'ailleurs, est vraiment très simple, très aisé, et ça ne prend pas plus de temps que d'envoyer un email, puisqu'on a déjà eu ce type de discussion avec certains professionnels. Ça va aussi vite, voire même c'est plus rapide que l'envoi d'un email avec les pièces jointes qu'on associe à l'envoi d'email.
Oui, on a une logique d'orientation parcours client, que ce soit pour le particulier que le professionnel. Donc on travaille avec des professionnels comme on travaille avec des particuliers pour simplifier le coûtant, en fait, hein, ce qui est quelque chose d'important. Voilà, alors en fait, le produit, si on le décrit, c'est on met à disposition une interface au professionnel du logement. Le professionnel du logement va pouvoir, avec l'adresse du logement ou avec l'immeuble, créer le carnet d'information du logement pour le copropriétaire. Il va pouvoir y déverser les documents et donc le copropriétaire va avoir accès dans son interface aux différents documents qui sont déversés par le professionnel. Et ensuite, on va fournir au copropriétaire en plus un coffre-fort Digipost. Donc vous avez les données du bâti, du logement, les données d'usage, c'est ce que je disais. Et ensuite, de mémoire, voilà. Donc en fait, ce sont des plateformes numériques et donc les documents peuvent circuler du professionnel vers le particulier, du particulier vers le professionnel. Le tout est tracé avec le consentement des uns et des autres. Si le particulier ne veut pas montrer des documents au professionnel, il peut le faire. Si le professionnel ne veut pas mettre tous les documents à disposition du particulier, et notamment dans le cas d'une copropriété, les documents des parties communes ne sont pas toujours tous accessibles aux copropriétaires. D'abord parce qu'ils n'en auraient pas automatiquement besoin, mais surtout parce que parfois, quand vous avez les contrats de maintenance, le détail des contrats de maintenance pour la barrière du parking, par exemple, c'est conservé, c'est piloté par le conseil syndical et par délégation syndic, mais les copropriétaires n'ont pas accès à ces documents-là, ce qui est normal d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc vous avez un système de communication possible avec à chaque fois le consentement des uns et des autres et la lisibilité quand les documents sont visibles par les uns et par les autres. Voilà, et bien sûr, le particulier in fine, dans son carnet d'information du logement, au bout de quelques années, si jamais il veut faire des travaux, par exemple, de plomberie, il peut donner accès à certains documents, genre le plan du logement, les derniers travaux qui ont été faits. Il donne accès à l'artisan qui ne va voir que les documents qui auront été tracés et tagués par le particulier. Bon, on est sur des plateformes numériques, donc vous imaginez bien que toutes ces questions-là ont été un peu abordées. On continue à avoir des groupes de travail pour améliorer le système.
Ce qui est intéressant également par le produit Mona, c'est la mise en visibilité en fait, de tous les intervenants qui vont jalonner finalement la vie du logement. Et ce qui fait que, comme ils sont mis en visibilité, c'est une potentialité pour eux de business lorsqu'il y a notamment une mutation du logement. Donc c'est aussi un élément important pour les professionnels du logement.
Oui, donc OK. Donc pour le particulier, c'est le copropriétaire en fait qui est vraiment intéressant. C'est tout d'abord, il a une obligation réglementaire parce qu'il a fait une opération de rénovation où il a acheté du neuf, où il va muter. On lui met un carnet d'information du logement dans les mains. Le professionnel va lui déposer des documents qui sont qualifiés et qui vont venir tracer l'historique de son carnet d'information du logement. Et en plus, on lui fournit un coffre Digipost qui est un coffre Digipost upgradé et qui lui permet de synchroniser tous les documents en dehors de sa vie, je dirais, administrative. Et ce coffre Digipost est connecté de façon sécurité au carnet d'information du logement. Donc on peut visualiser sur le téléphone, bien entendu, tout le CIL. On peut faire remonter des documents dans un sens et dans l'autre. Voilà, donc il a deux coffres-forts numériques, le carnet d'information du logement qui est réglementaire, le coffre Digipost. Et à partir de ça, je dirais, toute sa vie digitale, elle est accessible, sécurisée dans des serveurs de haut niveau. Voilà. Quelles sont les différences pour le carnet d'information du logement? On fournit une interface pour le professionnel et l'interface est adaptée pour lui simplifier la vie, pour créer les CIL, déposer les documents, etc. On a mis bien sûr des listes identifiées de documents qui sont en lien avec la réglementation. Je dirais ça, c'est pas tellement original. On a un dépôt de documents par drap. Voilà, c'est ça, par glisser-déposer, pour parler en français. Et on peut, si jamais le professionnel fait beaucoup de carnet d'information du logement, on peut créer en masse, donc on a des opérations d'optimisation, on peut se connecter à la base de données du professionnel, et donc on peut lui permettre de gagner encore plus de temps si jamais on est sur des volumes importants. Et puis, bien sûr, le professionnel communique avec le particulier à qui il a créé un carnet d'information du logement. Et le copropriétaire, il a son CIL réglementaire, il est rempli. Les documents sont qualifiés puisqu'ils ont été déposés par le professionnel. Il a des systèmes d'alerte, des petites fonctionnalités classiques pour pouvoir gérer ces documents, les visualiser et puis les fonctionnalités vont évoluer dans le temps. Il a son lien professionnel et on lui fournit en plus le coffre Digipost. Et puis, vous avez toutes les labels de RGPD et de sécurité qui sont fournis avec le partenariat et la coopération avec DocaPost.
Un élément important également en termes de complément sur ce slide, c'est que tous les documents qui sont déversés dans le carnet d'information du logement par le professionnel du logement ne sont pas supprimables. Donc, ce qui garantit en fait la pérennité de ces documents et surtout leur transmission lorsqu'il y a une mutation. Donc, on a bien quelque chose qui jalonne complètement la vie du logement. Et on revient à cette idée de carnet d'entretien. On a bien tous les éléments qui vont jalonner la vie du logement puisque, du coup, les documents ne sont pas supprimables par les différents propriétaires du logement.
Oui, juste pour compléter, là forcément on est dans les créations du CIL puisqu'on est au 1er janvier 2023 la réglementation, mais si on se projette dans 10 ans, tout le monde aura changé sa fenêtre une fois, donc les CIL il y en aura plein, et on pourra imaginer dans un logement, il y aura eu la construction du logement, une première rénovation, une opération de mutation, et tout ça ce sera dans des fiches projets totalement capitalisées, accessibles, transmises, et d'un propriétaire à l'autre. Et donc, vous aurez cet historique digital du logement qui sera conservé. Et si vous faites une projection sur aujourd'hui vos dossiers de capitalisation de vos documents de votre logement, vous avez des classeurs, ça fait des grosses étagères. Voilà, on est sur un produit d'une autre nature. Donc, et surtout, on voit bien qu'au moment où on voudra faire une opération dans le logement dans 10 ans et qu'on aura un CIL qui aura évolué comme ça, on n'est plus du tout dans la même relation. On va gagner énormément de temps, on a accès aux documents, voilà.
Donc avant de passer à la séquence questions-réponses, juste quelques mots de conclusion. Donc vous l'aurez compris, l'application en fait de la réglementation pour le cas des copropriétés est un peu plus complexe que l'application de la réglementation pour le résidentiel diffus, je dirais pour les maisons individuelles. Alors, et c'est ce qu'on a présenté, pour simplifier et surtout réduire les coûts liés à la mise en application de cette réglementation pour les copropriétés, eh bien, Mona propose plusieurs choses dans le cadre de son offre. Donc la première, vous l'avez compris, c'était le CIL partie commune qui sera par la suite renseigné par le conseil syndical ou par délégation le syndic. Le deuxième élément, évidemment, c'est que lors de la mutation ou lors de la vente d'un logement, eh bien, les documents qui sont présents dans le CIL immeuble seront transmis dans les carnets d'information du logement des futurs acquéreurs. Si le troisième point, c'est que si le copropriétaire vendeur ne dispose pas d'un carnet d'information du logement au moment de sa vente, eh bien, il peut jouer le rôle de commercialisateur en fait, de ce carnet d'information du logement. Et puis le quatrième point, puisque c'est aussi un élément qui peut être intéressant pour les différents copropriétaires, c'est que s'ils en font la demande, évidemment, on peut proposer un carnet d'information du logement, donc par copropriétaire, et qui serait commercialisé par les professionnels du logement. Donc je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, eh bien on est prêt avec Pascal à y répondre avec grand plaisir.
Bonjour, merci pour vos explications. Je ne sais pas où faut que je parle. Oui, j'ai deux questions dans un premier temps. Hein. J'ai choisi les essentielles. Et une observation. En ce qui concerne les questions, c'est la première fois que j'entends parler du carnet d'information du logement en tant que présidente du conseil syndical. L'objectif de ce carnet est-il uniquement sur le plan énergétique ou est-ce que ça concerne tous les travaux qui sont faits dans la copropriété et dans le logement? Première question. Deuxième question. Je viens personnellement de vendre un appartement. Je peux vous dire, là, au mois de juillet, donc le CIL était obligatoire, je peux vous dire que ni l'agence immobilière ni le notaire n'ont demandé ce document. Quelle est la sanction en cas de non-production de ce document? Ça, ce sont les deux questions. La troisième, c'est une observation. Vous dites que le conseil syndical agit par délégation du syndic. Je n'ai jamais vu une réglementation en ce sens. C'est l'Assemblée générale qui confie au Conseil syndical un certain nombre de pouvoirs. Donc, rassurez-moi, parce que la responsabilité du conseil syndical peut être engagée, et donc c'est extrêmement important que les choses soient précises. Bon, je reviendrai s'il n'y a pas d'autres questions, mais je m'arrête là pour l'instant.
Merci, madame. Pascal, tu prends?
Oui, alors, réglementairement, tel qu'il a été défini, l'objet, c'est vraiment viser à 2030, avoir toutes les données par logement pour pouvoir faire les évolutions des logements, pour faire baisser la consommation d'énergie. Donc ça, c'est réglementairement. Après, nous, notre produit, il est construit, vous avez compris, si on met un coffre Digipost sur les usages, il est construit pour en faire un outil numérique du logement. C'est-à-dire, ça concerne bien sûr la réglementation, puisque c'est le déclenchement du produit. Mais derrière, autour d'un logement, vous avez l'adresse. Cette adresse, ça vous donne accès aux données cadastrales. Ça vous donne l'adresse, elle vous donne accès à plein de choses. En fait, l'idée, c'est pour le particulier d'avoir un couteau suisse du logement. Et ça démarre par les questions d'opération de rénovation énergétique. Mais vous avez raison. Dedans, vous pouvez avoir vos appareils électroménagers, vos notices. Vous pouvez faire les derniers travaux de la cuisine. Et tout ça, vous les archivez de la même façon. Et ça reste la mémoire du logement. Et c'est important quand vous le vendez en termes de capitalisation de la traçabilité de vos logements. C'était sur le premier point. Le deuxième point...
Est-ce qu'il y a une sanction? Enfin, et votre deuxième propos, c'était de dire que vous avez vendu un logement récemment et personne n'était au courant, que ce soit l'agence immobilière ou que ce soit le notaire, je crois que vous avez mentionné. Donc effectivement, c'est bien que la réglementation soit obligatoire, on constate peu de communication des pouvoirs publics sur le sujet. En tout et pour tout, depuis l'apparition du décret, il y a eu, je dirais, deux communications de la part du ministère. La première qui était au mois de mai sur leur site avec... un petit fascicule résumant la réglementation et puis un exemple papier de carnet d'information du logement. Ça, c'était en mi-mai. Donc, vous voyez déjà quasiment plus de 5 mois, quasi 5 mois pour la première communication. Et la seconde, c'était lors du salon Renault Days. Peut-être certains d'entre vous étaient présents au salon Renault Days où le carnet d'information du logement a été présenté par justement le ministère parmi deux autres sujets, qui étaient le DPE et l'audit énergétique. Donc il y a eu, je dirais, une dizaine de minutes d'intervention du ministère sur le carnet d'information du logement, donc ce qui était effectivement très peu. Donc c'est vrai qu'on participe beaucoup, en tant qu'opérateur privé, à la pédagogie auprès des différentes parties prenantes du carnet d'information du logement, que ce soit nous ou que ce soit d'autres opérateurs privés de carnet d'information du logement. On le regrette. Évidemment, on préférait que les pouvoirs publics communiquent largement sur le sujet, de façon à ce que tout le monde soit au courant. Malheureusement, pour le moment, ça n'est pas le cas. On fait des actions, hein, bien évidemment, auprès d'eux pour qu'ils le communiquent davantage. Voilà, on espère que ça va aboutir. Et puis sur la question de la pénalité en tant que telle, s'il n'y a pas de création du CIL dans les cas qu'on a évoqués, hein, et qui sont intégrés dans la réglementation, eh bien, à date, il n'y a pas de pénalité. Je dirais que l'idée des pouvoirs publics, c'est de faire un peu ce qu'ils ont fait avec le contrôle technique des véhicules automobiles. Probablement, vous en souvenez. Quand ça a été mis en place, eh bien, au début, c'était un peu sur le bon vouloir des propriétaires de véhicules. Donc, il n'y avait pas de pénalité particulière. Et évidemment, le nombre de propriétaires qui faisaient le contrôle technique, alors qu'il était obligatoire, n'était pas très, très développé. À partir du moment où ils ont mis les pénalités, et vous le savez, quand vous faites prendre par la maréchaussée ou la police et que vous n'avez pas votre petit sticker sur votre pare-brise justifiant le fait que vous avez fait votre contrôle technique de véhicule, ben vous avez une amende qui est suffisamment dissuasive pour que vous y alliez avant que la date, je dirais, d'échéance soit arrive. Donc voilà sur les réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame?
Non, sur la question, vous avez raison. Sur l'Assemblée générale, oui, c'est l'Assemblée générale qui donne les pouvoirs au Conseil syndical. C'était un raccourci pour ne pas dire sur vote de l'Assemblée générale. Déjà, par délégation du Conseil au syndic, ça faisait une phrase assez longue. Donc si en plus je rajoutais, mais vous avez raison sur le fond. Il n'y a aucun sujet. Ça passe bien sûr par une Assemblée générale et un vote de l'Assemblée générale.
Merci. pour peut-être donner une information en complémentarité à madame, véritablement en copropriété, il y a le carnet d'entretien. Et le carnet d'entretien, c'est une obligation. Et le carnet d'information au logement, finalement, les documents et tous travaux, notamment de rénovation énergétique, sont inclus dans le carnet d'entretien. Donc ça, c'est une première chose obligatoire en cas de vente. Pour répondre aussi à madame par rapport au fait que le notaire ne lui ait pas demandé son carnet d'entretien à logement, en fait, c'est pour les travaux aussi qui ont fait l'objet d'un permis de construire ou de travaux déclaration préalable à partir du 1er janvier 2023. Et si vous n'avez pas fait de travaux énergétiques, changez vos fenêtres après le 1er janvier 2023, on ne vous l'a pas demandé. Donc en fait, ça, effectivement, vous dites, c'est tout neuf. Donc en fait, il n'y a pas encore le besoin. Ma question, moi, elle est sur le plan aussi du métier de la location, de la gérance. Parce que ça veut dire que, alors, en copropriété, on a le carnet d'entretien. Donc en fait, la réponse, c'est le carnet d'entretien. Tout travaux à l'obligation de... Mais en gérance, vous n'en avez pas parlé, il y a l'obligation en cas de vente. Il y aura l'obligation. Par contre, ça veut dire que les métiers de la gérance, puisqu'on est mandataire d'un propriétaire, on doit mettre en place effectivement ce carnet d'entretien et vis-à-vis des professionnels. Enfin voilà, le professionnel, l'agent immobilier qui a des mandats de gestion doit effectivement être attentif à voir quelles sont effectivement les options et voir éventuellement avec vous ou d'autres opérateurs pour la mise en place en fait d'un carnet d'information logement. Et ça, on sera obligé de le faire en continuité. Moins d'urgence parce que là, depuis, en fait, c'est que les travaux qui sont susceptibles d'être avoir des incidences énergétiques ou autres. Voilà.
Merci. Oui, sur le carnet d'entretien, vous avez raison. Mais alors, ce n'est pas exactement les mêmes documents qu'il y a dans le carnet d'entretien de la copropriété et le CIL, quand on regarde. Et le CIL rentre de façon un peu fine quand même dans les matériaux, l'efficacité énergétique, tout ça. Et donc, dans le carnet d'entretien, quand on regarde les carnets d'entretien de copropriété, bon, ça reste une liste très lisible, mais pas très technique. Or, le CIL veut capter les documents. Et le deuxième élément que je dirais, c'est le CIL appartient au copropriétaire, tandis que le carnet d'entretien, il est dans, en général, l'extranet du syndic. On peut le récupérer, mais le copropriétaire doit établir son CIL et doit y mettre les documents dedans d'une certaine façon. C'est ça le changement. Il ne doit pas avoir accès à un espace où il y a les documents. Il doit vraiment... C'est de sa propriété. Mais c'est une petite nuance...
Étant donné que c'est nouveau, il y a un vide. Quand vous faites une isolation sur façade, on est bien sur des parties communes, mais ça impacte le DPE de chacun des logements. Donc, en fait, véritablement, et l'information quand une dame veut vendre son logement, véritablement de savoir quelle est l'épaisseur des matériaux de la façade, véritablement, si le diagnostiqueur doit avoir l'information. Donc, en fait, là, je pense qu'il manque peut-être un ou deux décrets par rapport en fait à l'articulation avec la copro pour qu'on donne les informations. Et comme vous dites, tout à l'heure, il y avait une réunion avec le label RGE où effectivement, sur les factures, on a précisément les critères qualitatifs, les critères descriptifs des isolants. Donc là, il y a sûrement, ou même vous, à mettre une indication complémentaire, mais c'est un complément du carnet d'entretien. Mais effectivement, le carnet d'entretien, aujourd'hui, est un peu léger pour ça.
Oui, vous avez raison, je vous remercie. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y a des travaux sur l'ensemble de l'immeuble, la réglementation, c'est que chaque copropriétaire doit établir un CIL. Et c'est pour ça. Mais d'un autre côté, s'il y a un CIL dans l'immeuble, et ça rejoint ce que le syndic met dans son carnet d'entretien, ça rejoint cette chose-là. Quelque part, il transmettra ça en plus des documents au moment de la mutation ou des choses comme ça.
J'ai trois questions ici.
Est-ce que lors d'une vente, ça rajoute des annexes au compromis de vente et est-ce qu'il faut donner ça au client du coup en même temps ou pas ? On ne m'a pas entendu ? Ah. Lors d'une vente, est-ce que ça rajoute des annexes au compromis de vente, le CIL, du coup, ou pas ?
Alors, une annexe de plus, je pense pas que ça changerait grand-chose quand vous voyez la tronche d'un compromis de vente, mais...
Mais si c'est des grosses copropriétés ?
Ouais, si c'est des grosses copropriétés. En fait, ce qui se passe, en théorie, c'est que dans un monde merveilleux où le vendeur aurait déjà un carnet d'information du logement, au moment de la vente, je dirais, il pourrait donner accès à une partie de son carnet d'information du logement au futur acquéreur pour qu'il ait accès aux documents qui l'intéressent. Et potentiellement, après, dans l'acte de vente, de toute façon, oui, ce sera marqué, le CIL a été transmis avec tel et tel document, et le notaire aura à faire ça. Donc, il y aura des annexes qui concerneront potentiellement le carnet d'information du logement. Donc, voilà. Mais en fait, en théorie, on n'est pas tellement dans beaucoup plus de documents. On est dans des documents plus précis sur l'efficacité énergétique. Ça, c'est ça l'exigence réglementaire. Et ensuite, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, de copropriétaire en copropriétaire, on va se passer, entre guillemets, un coffre-fort numérique, une base de données, enfin, ce que vous voulez, un dossier qui ne va pas se perdre. Parce que c'est ce que disait... si vous connaissez les copropriétés, des copropriétés qui ont plus de 40 ans, si jamais ils ont les plans originaux, je dirais c'est un miracle divin. En général, de syndic en syndic, ils ont été perdus volontairement ou involontairement, d'ailleurs. Donc là, a priori, avec le numérique, on peut imaginer des plateformes demain où les gens vont transmettre tout. Et puis, on peut donner accès au moment de la vente, au moment des travaux, à d'autres acteurs de façon sécurisée. Voilà, ça fluidifie ces relations-là. Bon, je pensais, moi, j'ai fait une mutation il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai tout fait en numérique. Et le... Comment ça s'appelle la personne de l'agence bancaire me disait, mais vous savez, il y a des gens, ils ne veulent pas entendre parler du numérique, ils me l'envoient par papier. Et donc, en fait, je demande un document, ils m'envoient le document par papier, ça m'arrive au bout d'une semaine. Bon, la poste a une efficacité parfois redoutable, ça dépend des régions. Et donc, et pour un peu que je me sois mal exprimé, que la personne n'a pas compris que c'était le bon document, on est reparti pour un tour, quoi. Hein. Donc, voilà, donc on voit bien que ça va faire gagner de l'argent à tout le monde, ça permet de capitaliser, ça permet de parler des bonnes choses, ça permet de transmettre les bons documents, ça permet aussi probablement... à des acteurs externes de demander un accès au carnet d'information du logement à certains documents et de créer des fonctionnalités à valeur ajoutée qui vont aider les gens à par exemple, se dire bah, c'est quoi les travaux de demain pour ma rénovation, combien ça pourrait coûter, c'est quoi les aides que je peux avoir. Voilà, vous. Et tout ça.
Et nous, agents immobiliers, on peut demander du coup aux clients le carnet du coup ? Du coup ? Ouais.
Si vous avez bien compris mon modèle, l'agent immobilier, je vous vends l'interface et vous le vendez au client. Comme ça, s'il ne l'a pas, il en a un. Ah oui, oui. Donc, ben, si vous faites une opération avec un client qui a un carnet d'information du logement, et il vous donnera accès aux documents. Et dans ce cas-là, ça va vous simplifier le travail puisque les documents seront déjà là. Ça, c'est sûr. Mais ça, je dirais, c'est le monde de demain puisqu'on démarre les CIL cette année. Mais dans une logique, dans 5 ans, vous avez déjà un client qui a un CIL. Ben, en théorie, il va vous transférer... tous les documents qui sont qualifiés et vous allez gagner du temps en tant qu'agent immobilier. Et comme gagner du temps, c'est sûrement gagner de l'argent, ça peut avoir du sens.
Alors bonjour, ravi de vous rencontrer. J'aimerais savoir, par exemple, vous avez dit que les professionnels qui font les travaux nous remettent certains documents après travaux pour l'établissement ou la modification d'un CIL. Mais est-ce que ces professionnels sont au courant de ces normes, de ces documents à nous donner ? Et une deuxième question, nous, en tant que gestionnaire de biens, est-ce à nous d'éditer ce CIL ou ce sera quand même au propriétaire ? Parce que nous représentons quand même le propriétaire. Donc, est-ce que ce sera à nous de l'éditer s'il n'a pas été édité ou directement au copropriétaire ?
La réglementation, c'est vraiment que c'est le copropriétaire qui a l'obligation réglementaire. Donc forcément, il a un niveau d'information qui n'est pas simple. Et donc, les professionnels, comme des gestionnaires de biens, vous avez un devoir de conseil, d'une certaine façon. Et nous, ce qu'on propose, c'est pas de vendre aux particuliers en direct, parce que c'est trop compliqué. Par contre, c'est de fournir, de vendre en B2B au professionnel qui va établir dans les situations de marché qu'il a. Par exemple, un gestionnaire de biens, vous êtes en lien avec des copropriétaires. Si jamais il y a une opération qui nécessite un CIL, ben, vous avez le produit Mona. Ça vous permet de créer le CIL et de faire que votre copropriétaire soit en accord avec la réglementation. Ça, c'est notre proposition. Après, d'un point de vue réglementaire, le vrai responsable, c'est le copropriétaire. Encore faut-il qu'il soit informé. Et pour répondre à votre question... Oui, quand il y a des travaux de rénovation aujourd'hui, et pour un peu que le copropriétaire récupère des C2E ou des aides ou quoi que ce soit, on demande à l'artisan de mettre toute une série d'informations diverses et variées sur le devis ou sur la facture, de façon à ce que on puisse avoir droit aux aides d'une façon ou d'une autre. Je dirais là, avec le CIL, il y a des nouvelles informations qui sont demandées, notamment les matériaux en termes d'efficacité énergétique. Et donc, je dirais, les professionnels sont censés rajouter ces lignes-là dans la facture si jamais le document final, ce n'est qu'une facture avec toutes les informations. Donc je dirais oui. Oui, en théorie, oui. Ça veut dire qu'il faut vérifier, puisque dans le cas que je disais précédemment, on sait très bien que parfois, il faut revenir sur l'artisan pour lui demander de rectifier sa facture de façon à ce qu'on puisse toucher les C2E ou les aides. Donc, parce que c'est des sujets compliqués. Voilà.
Combien ça coûte ?
On l'attendait. Pascal, je te laisse... Donc le prix, donc nous on est à un prix facial qui est de 100 euros hors taxe et avec un prix dégressif selon les volumétries. Et c'est un carnet qui est valable 10 ans. Donc si vous faites le ratio, ça fait moins d'un euro par mois. Donc c'est-à-dire moins que ce que vous payez généralement lorsque vous faites du stockage de documents sur iCloud ou Google Cloud ou ce genre de choses. Et pourquoi 10 ans ? Ben tout simplement parce que la durée moyenne en fait, de résidence dans un bien immobilier en France, c'est 7 ans. Et donc, on a mis 10 ans parce que voilà, ça permet de gratter un petit peu sur ce point-là. Voilà donc la proposition que l'on fait. Et donc, l'autre point important, évidemment, c'est que... Pascal l'a évoqué tout à l'heure, notre modèle est un modèle de commercialisation qui est B2B2C, c'est-à-dire que c'est le professionnel du logement, quel qu'il soit, qui va commercialiser le produit Mona auprès des particuliers. Évidemment, il nous l'acquiert à un certain prix, libre à lui de le vendre au prix où il le souhaite pour faire une marge supplémentaire.
En ce qui me concerne, le texte dont vous me donnerez, si vous voulez bien, la date, prévoit-il que ça incombe au syndic ? Est-ce que c'est un rôle du syndic pour les parties communes, j'entends bien ? Est-ce que c'est le rôle du syndic ? Parce que ça permet, si ce n'est pas fait, qu'il y a une difficulté, ne serait-ce qu'au niveau d'une vente, d'en chercher, le cas échéant, la responsabilité. Je suis claire jusqu'au bout.
Non, ça fait partie du charme du texte. Il y a un certain nombre de trous dans le texte. Et en fait, la notion de CIL partie commune n'existe pas dans le texte. C'est par copropriétaire. Et donc, en fait, le syndic n'est pas nommé en tant que tel. Ça veut dire que collectivement, l'ensemble des copropriétaires sont responsables d'établir les documents pour les parties communes, mais personne ne dit comment ils font. Donc, c'est pour ça que nous, la solution, on propose de le mettre un CIL partie commune qui correspondrait. Et voilà, c'est pour ça qu'on est dans cette logique-là. Mais il n'y a pas d'obligation du syndic. À la rigueur, le syndic peut dire, mais c'est au copropriétaire de se débrouiller et on fait rien, quoi. Mais j'ose pas imaginer qu'un syndic puisse avoir cette position.
D'autres questions ou remarques ?
Non, on est sur le stand EDF, mais je vous donne ma carte, si vous voulez. C'est une forme de stand cartonné.
Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions ou de remarques, ben, nous vous remercions. De votre attention.
Merci.